France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la libre pensée.
Bonjour, au micro Hélène Lortie, libre penseuse. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christophe Biteau, vice-président de la Fédération nationale de la libre pensée, rédacteur en chef de La Raison, notre mensuel de la libre pensée, et aussi producteur de nos émissions sur France Culture pour parler aujourd'hui de franc-maçonnerie et libre-pensée. Christophe, pourquoi un tel sujet ?
Avant de répondre à votre question, je voudrais expliquer aux auditeurs qui parle. Je suis franc-maçon depuis 34 ans à la Grande Loge de France. Et par ailleurs, je pourrais dire, mais c'est un peu prétentieux, que je suis libre-penseur depuis toujours. Disons que je suis libre-penseur depuis très longtemps. Et adhérent à la libre-pensée depuis maintenant un quart de siècle. Ce sont pour moi, à mes yeux, deux engagements à la fois complémentaires et convergents. Alors, si je précise à mes yeux, c'est parce que mon objectif n'est absolument pas de faire du prosélytisme, mais plus précisément d'être, je dirais, pédagogue. Certains lecteurs de La Raison, notre mensuel, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et peut-être certains auditeurs se sont posé des questions sur la fréquence de référence à la libre pensée, à la franc-maçonnerie, pardon, dans notre journal La Raison. Alors, c'était des questions, je le précise tout de suite, qui n'avaient rien d'agressive, qui n'étaient absolument pas anti-maçonniques, mais qui s'interrogeaient. Donc, mon objectif, c'est de leur apporter un petit peu de lumière sur ces rapprochements entre franc-maçonnerie et libre-pensée.
Avant de s'attacher à définir les points communs entre ces deux écoles de pensée, il convient d'apprécier peut-être ce qui les distingue.
Oui, sans doute, parce qu'il y a autant de points de convergence que de points de divergence. Alors, les premières différences, ce sont la nature et l'objectif de ces deux associations. La franc-maçonnerie, d'abord, on dit souvent que c'est une société secrète. Alors, ça génère beaucoup de fantasmes. Je dirais plus simplement que c'est une société discrète. Ou des frères et des sœurs, c'est ainsi que nous nous dénommons entre nous dans nos loges. D'opinions politiques très diverses. Par ailleurs, d'opinions philosophiques ou religieuses également très variées. Nous avons autant d'athées que d'agnostiques, de déistes ou de théistes. C'est sans doute une des différences avec la libre pensée d'ailleurs. Débattent ensemble dans une entière liberté et dans une complète tolérance. Alors à quoi sert la franc-maçonnerie ? Eh bien, nos voisins britanniques qui sont très pragmatiques ont une phrase lapidaire mais explicite, « to make masons ». Les Français, comme ce sont des Latins, sont un petit peu plus bavards.
En effet.
Et nous disons « la franc-maçonnerie nulle part, les francs-maçons partout ». Alors qu'est-ce à dire ? Eh bien, ça signifie tout simplement que la franc-maçonnerie, en tant qu'association, n'a pas vocation à avoir une action à l'extérieur des temples maçonniques, n'a pas vocation à avoir une activité politique, je dirais, au sens large du terme, mais simplement à former des hommes et des femmes libres et éclairés qui, eux, en revanche, auront une action dans la cité, chacun selon ses goûts, ses spécificités, alors qui dans un parti politique ? Qui dans un syndicat, qui dans une association comme la Libre Pensée justement, ou tout simplement par leur exemplarité, dirais-je. La Libre Pensée, en revanche, c'est une association publique, bien sûr, qui a vocation, elle, à jouer un rôle politique. Alors je précise tout de suite que quand je dis politique, la Libre Pensée n'étant absolument pas un parti politique, c'est au sens grec du terme, politis, c'est-à-dire la vie dans la cité. Autre différence avec la franc-maçonnerie, pour la plupart, ça n'a pas toujours été le cas, j'y reviendrai, mais la plupart des adhérents de la libre-pensée sont athées. Donc, comme vous le voyez, autant de points communs que de divergences, et parmi les divergences, on pourrait le résumer en quelques mots. La franc-maçonnerie est une organisation initiatique et qui a une action individuelle sur ses membres, et la libre-pensée est une organisation politique au sens large du terme qui agit dans la cité.
Alors maintenant que nous avons clairement identifié ce qui sépare, eh bien passons à ce qui rassemble.
Ce qui rassemble est important. D'abord, je pense que la libre-pensée et la franc-maçonnerie participent d'un même mouvement historique qui va de la Renaissance au siècle des Lumières. Et l'humanisme est sans conteste le patrimoine commun de ces deux associations. La tenue, c'est ainsi qu'on appelle une réunion maçonnique, et la réunion d'un groupe de la libre pensée sont tous les deux des lieux de confrontation d'idées libres et fraternelles, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ce sont des espaces de recherche sans aucune limite. La franc-maçonnerie, les auditeurs le savent, comme c'est une société initiatique, a beaucoup de rituels. Eh bien, la libre pensée observe également des rituels. Je dirais que ceci étant, toute association humaine connaît des rituels. Mais la libre pensée en observe quelques-uns que je vais citer rapidement. Tout d'abord, au mois de janvier, on célèbre la décollation de Louis Capet. Alors, je rassure les auditeurs, il ne s'agit pas de célébrer la mort d'un homme, mais de célébrer la fin de la monarchie absolue, ce qui est quelque chose d'important. À cette occasion, nous avons comme tradition de manger une tête de veau. Là encore, je rassure les auditeurs qui, comme moi, détesteraient la tête de veau, il y a des repas de substitution.
Vous n'êtes pas le seul.
Voilà.
Une bonne nouvelle.
Le banquet gras est également une habitude. C'est le banquet gras du vendredi 10 saint. Là, il a pour vocation de combattre les interdits alimentaires religieux. On célèbre l'anniversaire de la Commune de Paris ou la proclamation de la République. Voilà, autant de rituels de la libre pensée. Passons aux origines de la franc-maçonnerie. Je dirais que les origines historiques, elles sont doubles. Elles sont en tout cas dans deux temps. Le premier temps, ce sont les loges de maçons de métier. Tout le monde en a entendu parler. Les bâtisseurs de cathédrales, les francs-maçons qui étaient pour la plupart des tailleurs de pierre. En Écosse, vers la fin du XVIe siècle, ont commencé à accepter en leur sein des gens qui n'étaient pas de métier, des intellectuels, entre guillemets, on ne disait pas ce terme-là à l'époque, dans un but d'enrichissement mutuel. Et d'ailleurs, tout le monde le sait, les symboles maçonniques, aujourd'hui encore, ce sont pour la plupart des outils de construction. Et puis, il y a un deuxième temps. Le deuxième temps historique, c'est la constitution de la Royal Society, ou Société Royale de Londres, qui, en 1660, est fondée avec l'objectif de faire la promotion des sciences. Les membres fondateurs éminents de la Royal Society ont un projet humaniste. Un projet humaniste qui emprunte également aux connaissances traditionnelles, c'est-à-dire à l'ésotérisme. L'ésotérisme chrétien, la cabale, l'hermétisme, la chimie, la gnose, etc., etc. J'en oublie certainement. Et à la fois, il n'oppose pas du tout les deux démarches, à la fois la démarche scientifique. Et c'est sans doute à l'origine également de la franc-maçonnerie moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc maintenant, passons à la libre pensée. Des libres penseurs, il y en a certainement eu depuis l'Antiquité grecque avec les philosophes.
C'est sûr.
Mais la libre pensée en tant que telle, en tant qu'association, elle est plus récente. Elle est plus récente, mais elle est quand même très ancienne, puisque elle apparaît en 1848 avec le fameux Printemps des Peuples.
C'est la plus ancienne association, peut-être.
C'est la plus ancienne association française, absolument. L'Association nationale de la libre pensée, quant à elle, est fondée en 1866. Elle va regrouper des anarchistes et des marxistes qui avaient l'habitude de se côtoyer déjà au sein de la Première Internationale, des militants du Parti radical, dont je rappelle quand même que, historiquement, c'est le premier parti fondé en France, et des loges maçonniques. Il est peut-être intéressant de se pencher rapidement sur le programme de la libre pensée, qui s'articule autour de quatre thèmes. Premier thème très important que nous développerons tout à l'heure, la laïcité, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État. Deuxième thème, la lutte contre les dogmes et l'obscurantisme. Et c'est sans doute parce que cette lutte contre le dogme et contre les religions essentiellement a été de plus en plus prégnante au sein de la libre pensée que les déistes, les agnostiques ont de plus en plus disparu, il en reste encore, hein, mais de plus en plus disparu au sein de la libre pensée pour laisser la place aux athées. Troisième point, troisième axe, le pacifisme et l'internationalisme. Et enfin, le dernier, qui est commun aussi, on peut le dire, avec la franc-maçonnerie, c'est le rejet de toute oppression économique ou sociale.
Alors, vous avez cité la laïcité. N'est-ce pas un lien important entre franc-maçon et libre-penseur ?
Ah, c'est un lien même, je dirais, essentiel. J'irais même jusqu'à dire que la franc-maçonnerie, en établissant une fracture entre ce qu'elle appelle le sacré et le profane, c'est-à-dire ce qui se passe dans les loges maçonniques et puis l'action ensuite dans le monde, est en quelque sorte précurseur d'une forme de laïcité. Parce que la laïcité, rappelons-le, ça n'est rien d'autre que la séparation juridique entre la sphère privée et la sphère publique. Nous l'avons dit dans l'émission du mois précédent. Ça n'est pas des valeurs, ça n'est pas un projet politique, c'est simplement quelque chose qui permet de vivre en commun. C'est une loi de liberté, mais on y reviendra tout à l'heure. Les francs-maçons et les libres-penseurs, en tout cas, vont être à l'avant-garde du combat pour la fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État du 9 décembre 1905. On peut dire que la loi se prépare au sein des loges maçonniques et des groupes de la libre-pensée. D'ailleurs, c'est ce que dénonceront toujours les cléricaux, hier comme aujourd'hui. Donc, prenons quelques exemples rapides. Le Congrès mondial de la libre-pensée qui se tient à Rome du 20 au 22 septembre 1904 adopte une motion qui réclame la séparation intégrale des églises et de l'État. En ce sens, c'est le prémisse de la loi. Et au début du XXe siècle, pour parler de la franc-maçonnerie, eh bien, il est très difficile de différencier les deux principales obédiences françaises dans leur action anticléricale, c'est-à-dire le Grand Orient de France et la Grande Loge de France. En 1904, la Grande Loge de France adhère au Congrès international de la libre-pensée. Son convent, alors le convent c'est un terme spécifique qui veut dire tout simplement le congrès, vote à l'unanimité une motion de soutien à Combes, le fameux petit père Combes. Le convent de 1905 du Grand Orient de France, quant à lui, est précédé par un congrès international de la libre-pensée à Paris, en présence de délégations des deux obédiences maçonniques que j'ai citées, je le répète, Grand Orient de France et Grande Loge de France. À la même époque, le grand maître de la Grande Loge de France dit la chose suivante, je le cite donc, il présente la libre-pensée comme le signe distinctif de la maçonnerie française, se félicite de l'ardeur de la lutte anticléricale et du succès de l'action menée par la maçonnerie pour affranchir la loi de séparation de toute espèce de lien et de compromission avec l'Église. Alors je vais faire un tout petit peu de chauvinisme maçonnique, très rapide quand même. La loge à laquelle j'appartiens, qui s'appelle les Trinitaires, qui est la plus ancienne de la Grande Loge de France, à l'époque, sous la houlette de son vénérable maître, c'est-à-dire de son président, Élimé, à une action anticléricale des plus virulentes, je dirais. Alors, la loi de 1905, qui va être élaborée par des députés qui souvent sont francs-maçons et libre-penseurs, va être très équilibrée. Très équilibrée parce qu'elle consacre à la fois la liberté individuelle, la liberté de conscience, la liberté de culte, et qu'elle consacre la séparation entre l'Église et l'État, ce qu'on appelle justement la laïcité.
Alors, pouvez-vous nous dire, Christophe, comment se manifeste cet équilibre ?
Alors, il se manifeste essentiellement dans les deux premiers articles de la loi, loi qui est beaucoup plus importante, mais les deux premiers articles consacrent finalement ces deux questions. L'article premier, je le cite, « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. » Donc là, vous voyez que c'est effectivement la liberté de conscience qui est explicitement définie. N'en déplaise à certains qui voudraient faire de la loi actuellement une loi d'interdiction, essentiellement d'ailleurs contre une seule religion, les musulmans. Ça n'est pas du tout l'objet de la loi de 1905. Et puis l'article 2, c'est « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ».
Eh bien, force est de constater qu'aujourd'hui, l'article 2 est de plus en plus souvent bafoué.
Absolument.
Alors, la franc-maçonnerie et la libre-pensée ont, me semble-t-il, aussi des ennemis communs. Quels sont-ils ?
Ils ont et ont toujours eu des ennemis communs. Les mêmes ennemis. pour des raisons simples, c'est que la franc-maçonnerie et la libre-pensée se sont toujours, de tout temps, opposés à toute forme de totalitarisme, de toute forme d'oppression, qu'elle soit religieuse, politique et militaire. Donc évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Pour ne prendre qu'un exemple assez récent dans l'histoire, le régime de l'État français de Pétain, le régime de Vichy, a interdit conjointement, en même temps, la libre-pensée et la franc-maçonnerie. Alors ce combat pour la liberté, ce combat contre le cléricalisme, il est aujourd'hui toujours d'actualité. J'entends dire ici et là que l'Église catholique, apostolique et romaine aurait changé. Eh bien, il s'agit tout simplement de se référer au texte de cette Église. Le 26 novembre 1983, la veille de l'entrée en vigueur du nouveau code du droit canonique, la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui autrefois s'appelait du très joli nom de Sainte Inquisition, ça rappelle des souvenirs.
Mauvais souvenir.
Publie une déclaration qui s'appelle, excusez-moi pour mon latin cuisine, de Associo Nibus Masonicis. Elle est signée par le cardinal Ratzinger, promis à un bel avenir et approuvée par Monsieur Wojtyla, plus connu sous le pseudo de Jean-Paul II. Elle stipule la chose suivante. Le jugement négatif de l'Église sur les associations maçonniques demeure inchangé parce que leurs principes ont toujours été considérés comme inconciliables avec la doctrine de l'Église. Les fidèles du Christ qui donnent leur nom aux associations maçonniques tombent dans un péché grave et ne peuvent accéder à la Sainte Communion, ce qui est très effrayant, on en convient. Condamnation, et ce sera ma conclusion, qui a été confirmée en 2024, donc très très récemment. Manifestement, certaines choses demeurent, l'intolérance des uns, et d'autres choses demeurent également, le combat pour la liberté individuelle et collective qu'incarnent la franc-maçonnerie et la libre-pensée.
C'est certain. Eh bien, notre émission arrive à son terme. Il ne me reste plus qu'à remercier mon invité, Christophe Biteau, Rafik Zénine à la réalisation, Jean-Guilain Meige à la technique et Claire Poincillon à la production. Si les propos de ce jour vous ont intéressé, je vous invite à vous abonner à La Raison via le site fnlp.fr et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.
When the last light